Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Troisième partie, livre 36e. Infirmerie de Marie-Thérèse. 2. Lettre de Madame la Duchesse de Berry. 3. Réflexions et résolutions. 4. Départ de Paris. Calèche de Monsieur de Talleyrand. Bâle. Journal de Paris à Prague du 14 au 24 mai 1833, écrit au crayon dans la voiture, à l'encre dans les auberges. 5. Bord du Rhin. Saut du Rhin. Moskirch. Orage. 6. Le Danube. Ulm. 7. Blenheim. Louis XIV. Forêt hercynienne. Les Barbares. Source du Danube. 8. Ratisbonne. Fabrique d'empereurs. Diminution de la vie sociale à mesure qu'on s'éloigne de la France. Sentiment religieux des Allemands. 9. Arrivée à Waldmünchen. Douane autrichienne. L'entrée en Bohême refusée. 10. Séjour à Waldmünchen. Lettre au comte de Chotek. Inquiétude. Le Saint Viatique. 11. Chapelle. Ma chambre d'auberge. Description de Waldmünchen. 12. Lettre du comte de Chotek. La paysanne. Départ de Waldmünchen. Douane autrichienne. Entrée en Bohême. Forêt de pins. Conversation avec la lune. Pilsen. Grand chemin du Nord. Vue de Prague. Chapitre 1. Paris, rue d'Enfer, 9 mai 1833. Infirmerie de Marie-Thérèse. J'ai amené la série des derniers faits jusqu'à ce jour. Pourrais-je enfin reprendre mon travail? Ce travail consiste dans les diverses parties de ces mémoires non encore achevées. J'aurai quelques difficultés à m'y remettre ex abrupto, car j'ai la tête préoccupée des choses du moment. Je ne suis pas dans les dispositions convenables pour recueillir mon passé, dans le calme où il dort, tout agité qu'il fut quand il était à l'état de vie. J'ai pris la plume pour écrire. Sur qui et à propos de quoi? Je l'ignore. En parcourant des regards le journal dans lequel, depuis 6 mois, je me rends compte de ce que je fais et de ce qui m'arrive, je vois que la plupart des pages sont datées de la rue d'Enfer. Le pavillon que j'habite près de la barrière pouvait monter à une 60 000 francs. Mais, à l'époque de la hausse des terrains, je l'achetais beaucoup plus cher, et je ne l'ai pu jamais payer. Il s'agissait de sauver l'infirmerie de Marie-Thérèse, fondée par les soins de Madame de Chateaubriand, et contiguë au pavillon. Une compagnie d'entrepreneurs se proposait d'établir un café et des montagnes russes dans le susdit pavillon, bruit qui ne va guère avec l'agonie. Ne suis-je pas heureux de mes sacrifices? Sans doute. On est toujours heureux de secourir les malheureux. Je partagerai volontiers aux nécessiteux le peu que je possède. Mais je ne sais si cette disposition bienfaisante s'élève chez moi jusqu'à la vertu. Je suis bon comme un condamné qui prodigue ce qui ne lui servira plus dans une heure. À Londres, le patient qu'on va pendre vend sa peau pour boire. Je ne vends pas la mienne, je la donne au fossoyeur. Une fois ma maison achetée, ce que j'avais de mieux à faire était de l'habiter. Je l'ai arrangée telle qu'elle est. Des fenêtres du salon on aperçoit d'abord ce que les Anglais appellent Pleasure Ground, avant-scène formée d'un gazon et de massifs d'arbustes. Au-delà de ce pourpris, par-dessus un mur d'appui que surmonte une barrière blanche losangée, est un champ variant de culture et consacré à la nourriture des bestiaux de l'infirmerie. Au-delà de ce champ vient un autre terrain, séparé du champ par un autre mur d'appui, à claire-voie verte, entrelacé de viornes et de rosiers du Bengale. Cette marche de mon état consiste en un bouquet de bois, un préau et une allée de peupliers. Ce recoin est extrêmement solitaire. Il ne me rit point, comme le recoin d'Horace, Angulus ridet. Tout au contraire, j'y ai quelquefois pleuré. Le proverbe dit « Il faut que jeunesse se passe ». L'arrière-saison a aussi quelques frasques à passer. Les pleurs et la pitié, sortent d'amour ayant ses charmes. La Fontaine. Mes arbres sont de mille sortes. J'ai planté 23 cèdres de Salomon et 2 chênes de druide. Ils font les cornes à leur maître de peu de durée. Brewein dominum. Un mail, double allée de marronniers, conduit du jardin supérieur au jardin inférieur. Le long du champ intermédiaire, la déclivité du sol est rapide. Ces arbres, je ne les ai pas choisis comme à la vallée aux loups, en mémoire des lieux que j'ai parcourus. Qui se plaît au souvenir conserve des espérances. Mais lorsqu'on n'a ni enfant, ni jeunesse, ni patrie, quel attachement peut-on porter à des arbres dont les feuilles, les fleurs, les fruits ne sont plus les chiffres mystérieux employés au calcul des époques d'illusion? En vain, on me dit, vous rajeunissez. Croit-on me faire prendre pour ma dent de lait, ma dent de sagesse? Encore celle-ci ne m'est venue que pour manger un pain amer sous la royauté du 7 août. Au reste, mes arbres ne s'informent guère s'ils servent de calendrier à mes plaisirs ou d'extraits mortuaires à mes ans. Ils croissent chaque jour du jour que je décrois. Ils se marient à ceux de l'enclos des enfants trouvés et du boulevard d'enfer qui m'enveloppe. Je n'aperçois pas une maison. À 200 lieues de Paris, je serai moins séparé du monde. J'entends bêler les chèvres qui nourrissent les orphelins délaissés. Ah, si j'avais été comme eux dans les bras de saint Vincent de Paul, né d'une faiblesse, obscure et inconnue comme elle, je serais aujourd'hui quelque ouvrier sans nom, n'ayant rien eu à démêler avec les hommes, ne sachant ni pourquoi ni comment j'étais venu à la vie, ni comment ni pourquoi j'en dois sortir. La démolition d'un mur m'a mis en communication avec l'infirmerie de Marie-Thérèse. Je me trouve à la fois dans un monastère, dans une ferme, un verger et un parc. Le matin, à 5 heures, je m'éveille au son de l'Angélus. J'entends de mon lit le chant des prêtres dans la chapelle. Je vois de ma fenêtre un calvaire qui s'élève entre un noyer et un sureau, des vaches, des poules, des pigeons et des abeilles. Des sœurs de charité en robes d'étamine noire et en cornettes de basin blanc, des femmes convalescentes, de vieux ecclésiastiques, vont errant parmi les lilas, les azaléas, les pompadouras et les rhododendrons du jardin, parmi les rosiers, les groseilliers, les framboisiers et les légumes du potager. Quelques-uns de mes curés octogénaires étaient exilés avec moi. Après avoir mêlé ma misère à la leur sur les pelouses de Kensington, j'ai offert à leurs derniers pas les gazons de mon hospice. Ils y traînent leur vieillesse religieuse, comme les plis du voile du sanctuaire. J'ai pour compagnon un gros chat gris-roux, à bandes noires transversales, né au Vatican dans la loge de Raphaël. Léon XII l'avait élevé dans un pan de sa robe, où je l'avais vu avec envie lorsque le pontife me donnait mes audiences d'ambassadeur. Le successeur de Saint-Pierre étant mort, j'héritais du chat sans maître, comme je l'ai dit en racontant mon ambassade de Rome. On l'appelait Michetto, surnommé le chat du pape. Il jouit en cette qualité d'une extrême considération auprès des âmes pieuses. Je cherche à lui faire oublier l'exil, la chapelle Sixtine et le soleil de cette coupole de Michel-Ange sur laquelle il se promenait, loin de la terre. Ma maison, les divers bâtiments de l'infirmerie avec leur chapelle et la sacristie gothique ont l'air d'une colonie ou d'un hameau. Dans les jours de cérémonie, la religion cachée chez moi, la vieille monarchie à mon hôpital, se mettent en marche. Des processions, composées de tous nos infirmes, précédées des jeunes filles du voisinage, passent en chantant sous les arbres avec le Saint-Sacrement, la croix et la bannière. Madame de Chateaubriand les suit le chapelet à la main, fière du troupeau objet de sa sollicitude. Les merles sifflent, les fauvettes gazouillent, les rossignols luttent avec les hymnes. Je me reporte aux rogations dont j'ai décrit la pompe champêtre. De la théorie du christianisme, j'ai passé à la pratique. Mon gîte fait face à l'Occident. Le soir, la cime des arbres éclairée par derrière grave sa silhouette noire et dentelée sur l'horizon d'or. Ma jeunesse revient à cette heure. Elle ressuscite ces jours écoulés que le temps a réduits à l'insubstance de fantômes. Quand les constellations percent leurs voûtes bleues, je me souviens de ce firmament splendide que j'admirais du giron des forêts américaines ou du sein de l'océan. La nuit est plus favorable que le jour aux réminiscences du voyageur. Elle lui cache les paysages qui lui rappelleraient les lieux qu'il habite. Elle ne lui laisse voir que les astres, d'un aspect semblable sous les différentes latitudes du même hémisphère. Alors il reconnaît ces étoiles qu'il regardait de tel pays à telle époque, les pensées qu'il eut, les sentiments qu'il éprouva dans les diverses parties de la terre, remontent et s'attachent au même point du ciel. Nous n'entendons parler du monde à l'infirmerie qu'aux deux quêtes publiques et un peu le dimanche. Ces jours-là, notre hospice est changé en une espèce de paroisse. La sœur supérieure prétend que de belles dames viennent à la messe dans l'espérance de me voir. Économe industrieuse, elle met à contribution leur curiosité. En leur promettant de me montrer, elle les attire dans le laboratoire. Une fois prise à ce trébuchet, elle leur cède bon gré mal gré, pour de l'argent, des drogues en sucre. Elle me fait servir à la vente du chocolat fabriqué au profit de ses malades, comme la martinière m'associait au débit de l'eau de groseille qui l'avalait au succès de ses amours. La sainte pipeuse vole aussi des trognons de plumes dans l'encrier de Madame de Chateaubriand. Elle les négocie parmi les royalistes de pure race, affirmant que ces trognons précieux ont écrit le superbe mémoire sur la captivité de Madame la Duchesse de Berry. Quelques bons tableaux de l'école espagnole et italienne, une Vierge de Guérin, la Sainte Thérèse, dernier chef-d'œuvre du peintre de Corinne, nous font tenir aux arts. Quant à l'histoire, nous aurons bientôt à l'hospice la sœur du marquis de Favras et la fille de Madame Roland. La monarchie et la République m'ont chargé d'expier leur ingratitude et de nourrir leurs invalides. C'est à qui sera reçu à Marie-Thérèse. Les pauvres femmes obligées d'en sortir, quand elles ont recouvré la santé, se logent aux environs de l'infirmerie, se flattant de retomber malades et d'y rentrer. Rien n'y sent l'hôpital. La juive, la protestante, la catholique, l'étrangère, la française y reçoivent les soins d'une délicate charité, qui se déguise en affectueuse parenté, chacune des affligées croit reconnaître sa mère. J'ai vu une Espagnole, belle comme Dorothée, la perle de Séville, mourir à 16 ans de la poitrine, dans le dortoir commun, se félicitant de son bonheur, regardant, en souriant, avec de grands yeux noirs à demi éteints, une figure pâle et amaigrie, Madame la Dauphine, qui lui demandait de ses nouvelles et l'assurait qu'elle serait bientôt guérie. Elle expira le soir même, loin de la mosquée de Cordoue et des bords du Guadalquivir, son fleuve natal. « D'où es-tu ? »
« Espagnole. »
« Espagnole est ici, Lope de Vega. » Grand nombre de veuves de chevaliers de Saint-Louis sont nos habituées. Elles apportent, avec elles, la seule chose qui leur reste, les portraits de leurs maris en uniforme de capitaine d'infanterie. Habits blancs, revers rose ou bleu de ciel, frisure à l'oiseau royal. On les met au grenier. Je ne puis voir leur régiment sans rire. Si l'ancienne monarchie eût subsisté, j'augmenterais aujourd'hui le nombre de ses portraits, je ferai dans quelque corridor abandonné la consolation de mes petits-neveux. C'est votre grand-oncle François, le capitaine au régiment de Navarre. Il avait bien de l'esprit. Il a fait dans le Mercure le logogriffe qui commence par ces mots « Retrancher ma tête » et dans l'almanach des Muses la pièce fugitive « Le cri du cœur ». Quand je suis là de mes jardins, la plaine de Montrouge les remplace. J'ai vu changer cette plaine. Que n'ai-je pas vu changer ? Il y a 25 ans qu'en allant à Méréville, au Marais, à la vallée aux Loups, je passais par la barrière du Maine. On apercevait à droite et à gauche de la chaussée que des moulins, les roues des grues aux trouées des carrières, et la pépinière de Selles, ancien ami de Rousseau. Desnoyers bâtit ses salons de 100 couverts pour les soldats de la garde impériale qui venaient trinquer entre chaque bataille gagnée, entre chaque royaume abattu. Quelques guinguettes s'élevèrent autour des moulins, depuis la barrière du Maine jusqu'à la barrière du Montparnasse. Plus haut était le moulin janséniste et la petite maison de Lauzin pour contraste. Auprès des guinguettes furent plantés des acacias, ombrage des pauvres, comme l'eau de Cels et le vin de champagne des Gueux. Un théâtre forain fixa la population nomade des Bastringues. Un village se forma avec une rue pavée, des chansonniers et des gendarmes, enfions et sécropes de la police. Pendant que les vivants s'établissaient, les morts réclamaient leur place. On enferma, non sans opposition des ivrognes, un cimetière dans une enceinte où fut enclos un moulin ruiné, comme la tour des abois. C'est là que la mort porte chaque jour le grain qu'elle a recueilli. Un simple mur la sépare des danses, de la musique, des tapages nocturnes. Les bruits d'un moment, les mariages d'une heure, les séparent du silence sans terme, de la nuit sans fin et des noces éternelles. Je parcours souvent ce cimetière, moins vieux que moi, où les vers qui rongent les morts ne sont pas encore morts. Je lis les épitaphes. Que de femmes de 16 à 30 ans sont devenues la proie de la tombe, heureuses de n'avoir vécu que leur jeunesse. La duchesse de Gesvres, dernière goutte du sang de Du Guesclin, squelette d'un autre âge, fait son somme au milieu des dormeurs plébéiens. Dans cet exil nouveau, j'ai déjà d'anciens amis. Monsieur Lemoine y repose. Secrétaire de Monsieur de Montmorin, il m'avait été légué par Madame de Beaumont. Il m'apportait presque tous les soirs, quand j'étais à Paris, la simple conversation qui me plaît tant quand elle s'unit à la bonté du cœur et à la sûreté du caractère. Mon esprit fatigué et malade se délasse avec un esprit sain et reposé. J'ai laissé les cendres de la noble patronne de Monsieur Lemoine au bord du Tibre. Les boulevards qui environnent l'infirmerie partagent mes promenades avec le cimetière. Je n'y rêve plus. N'ayant plus d'avenir, je n'ai plus de songes. Étranger aux générations nouvelles, je leur semble un besacier poudreux, bien nu. À peine suis-je recouvert maintenant d'un lambeau de jours écourtés que le temps rogne comme le héros d'armes coupé la jaquette d'un chevalier sans gloire. Je suis aise d'être à l'écart. Il me plaît d'habiter à une portée de fusil de la barrière, au bord d'un grand chemin, et toujours prêt à partir. Du pied de la colonne miliaire, je regarde passer le courrier, mon mage et celle de la vie. Tanquam nuncius percurrens. Lorsque j'étais à Rome en 1828, j'avais formé le projet de bâtir à Paris, au bout de mon ermitage, une serre et une maison de jardinier, le tout sur mes économies de mon ambassade et les fragments d'antiquités trouvés dans mes fouilles à Torre Vergata. Monsieur de Polignac arriva au ministère. Je fis, aux libertés de mon pays, le sacrifice d'une place qui me charmait. Retombé dans mon indigence, adieu ma serre. Fortuna vitrea est. La méchante habitude du papier et de l'encre fait qu'on ne peut s'empêcher de grisonner. J'ai pris la plume, ignorant ce que j'allais écrire, et j'ai barbouillé cette description, trop longue, au moins d'un tiers. Si j'ai le temps, je l'abrégerai. Je dois demander pardon à mes amis de l'amertume de quelques-unes de mes pensées. Je ne sais rire que des lèvres. J'ai le spleen, tristesse physique, véritable maladie. Quiconque a lu ces mémoires a vu quel a été mon sort. Je n'étais pas à une nagée du sein de ma mère que déjà les tourments m'avaient assailli. J'ai erré de naufrage en naufrage. Je sens une malédiction sur ma vie, poids trop pesant pour cette cahute de roseaux. Que ceux que j'aime ne se croient donc pas reniés, qu'ils m'excusent, qu'ils laissent passer ma fièvre. Entre ces accès, mon cœur est tout à eux.